je me fais mon petit artisanat, et ben j'ai de quoi manger avec ça. Donc entre un bon spectacle, pardonnez-moi de me lancer des fleurs moi-même, et un mauvais film, je préfère le spectacle, forcément.
Mais vous parlez de votre rôle d'artisan, presque, quand vous êtes sur une scène ou quand vous préparez vos sketchs. Je suppose que ce monologue a des avantages. Comme vous disiez, vous êtes seul maître à bord. Il y a le public, quand même. Et ce n'est pas négligeable. J'étais étonnée parce que je trouve qu'il tient une grande, grande part dans votre spectacle.
Oui. Ah oui, oui. C'est un partenaire.
On dirait que vous conversez ça pendant des heures, d'ailleurs.
Oui, oui. Pendant presque 3 heures, certains soirs. C'est formidable d'ailleurs qu'ils aient la patience. Il faut avoir les nerfs, je parle des spectateurs, de ça, la santé et la vessie même.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'entracte, oui. mais il y a une énorme part d'improvisation quand même.
Oui, mais vous savez, c'est vrai pour tous les spectacles, mais pour le mien alors c'est encore plus vrai. Pour ce genre de spectacle que je pratique, je ne suis pas le seul à le faire. Le public est un partenaire avec lequel on n'a pas répété. Et chaque soir, c'est une aventure. C'est la technique de la comédie dell'arte, de la comédie italienne, des arlequins, justement, des arlequins italiens, alors, qui consiste à enrichir un spectacle d'improvisation qui deviennent... Bon, ben oui, j'improvise un soir une chose. Bon, je ne sais pas, ici, il y a toute une partie belge, si je peux dire. Des choses que je ne dirais pas à Lille dans quelques jours, parce que... Bon, je suis pas sûr que ça les intéresse à ce point. Moi, je crois faire ce métier avec beaucoup de sincérité et de foi. Mais en même temps, il y a un œil qui surveille la réaction du public, etc. Enfin,
Vous le voyez vraiment aussi bien que vous ne le dites, le spectateur, ça, vous les voyez vraiment dans la salle?
Non, je me vante là. Non, je vois les premiers rangs vaguement. Ça. Non, c'est un truc. Non. Vous savez, il y a beaucoup de petites crapuleries dans la manière d'exercer ce métier-là.
M'étonne pas.
Il y a de la malice là-dedans. Il y a un mélange effectivement d'innocence. Les comédiens sont des enfants, presque tous. Et a fortiori, ce genre de comédien-là que je suis. Et en même temps, on a donc effectivement l'innocence et la malice et la cruauté des enfants jusqu'au bout.
Alors, on peut parler de votre adolescence, oui, puisqu'on était à l'enfance.
Oui.
Mais cette adolescence, vous l'avez passée...
J'ai tendance à tout mélanger. Et puis surtout, j'ai tendance à, je l'ai remarqué, à occulter toute une partie de ça. Justement parce que ça n'est pas fatalement heureux. Je ne sais plus qui a dit... je ne laisserai plus personne dire que 20 ans est l'âge du bonheur, maintenant que je les ai eus, ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, je suis beaucoup mieux maintenant, dans ma quarantaine, qu'à l'époque. J'étais mal. J'ai pas de très bons souvenirs.
Il a fallu passer par tout ça pour arriver à ce que vous êtes maintenant, sans doute.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, à la limite, je suis assez reconnaissant, à la fois à mes parents... à la fois à l'histoire, avec un grand H, qui a fait que nous avons perdu l'Algérie. Pas moi. Moi, je ne l'ai pas perdue, parce qu'elle n'était pas à moi. Et je pense effectivement que, bon, bah, comme on dit, ça m'a forgé le caractère, quoi. Ça m'a appris à être une espèce de samouraï. Ça m'a appris à... Non pas à me démerder, au sens, justement, des merdes françaises, quoi. Mais... à ne pas être un assisté, comme sont beaucoup de jeunes gens que je vois maintenant, qui attendent un peu tout des autres, vous voyez. Je suis peut-être effectivement préparé à la solitude, il faut bien le dire. J'aime pas ça, hein. Et ma solitude est terriblement peuplée, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan privé. Mais en même temps, je peux la supporter parce que même enfant, j'avais tendance à monologuer, vous voyez. C'était une espèce de répétition. N'ayant pas Enfin, non, parce que je veux pas me faire. C'est pas Dickens non plus. Hein, je veux dire, je veux pas me faire passer pour un enfant martyr. Enfin, bref, c'est vrai que mon enfance n'a pas été très très marrante. D'abord parce que historiquement, elle n'a pas été marrante. Il y a eu donc tout ça, les événements d'Algérie, un pays tout de même assez dur. J'ai connu le tremblement de terre, tout de même un peu la guerre, car j'habitais à la frontière algéro-tunisienne et on se battait en Tunisie, donc les bombardements, les choses comme ça, plus une situation familiale. Assez vivante, disons. Évidemment, bon, c'est, tout ça est pas, c'est pas du pastel, quoi.
Mais vous attendiez beaucoup de votre voyage vers la France, vous aviez quitté l'Algérie, je crois que c'était en 49.
J'avais 15 ans. J'attendais autre chose. J'attendais que ça change, surtout pour moi. Et oui, c'est vrai que la France, Paris, j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire. Ça, c'était donc plutôt favorable. Moi, j'ai rien perdu, personnellement, je le répète, en perdant l'Algérie. Le ciel bleu, oui. Les odeurs.
C'est important.
Oui. Mais chaque fois que je peux, j'ai... Je vais vers ces pays-là, pas spécialement en Algérie d'ailleurs, j'y suis allé très peu. Il y a des choses qui me déçoivent un peu partout. Il y a une espèce de désenchantement sur tous ces grands moments de l'histoire qui débouchent finalement sur le renouvellement des mêmes schémas. Moi, il m'est arrivé de rencontrer depuis des gens de ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie politique algérienne. Ils parlent et ils vivent à peu près comme... comme ceux qui ont contribué à chasser, ou que leurs parents ont contribué à chasser. Je veux dire, on parle de la même façon, on vit de la même façon. Alors, je pense que ça valait quand même la peine pour eux, parce qu'ils sont chez eux. Mais enfin, il y avait d'autres choses à apprendre aux Français que ça.
J'ai souvent des ennuis, mais je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais. Y compris d'ailleurs quand je ressasse des choses un peu mélancoliques ou même carrément tragiques. Parce qu'il y a le contraire au bout. Vous comprenez, je peux passer une journée un peu débilitante, un peu déprimante, etc. Mais ce rendez-vous que j'ai chaque soir avec le public, c'est quelque chose de très excitant et qui m'excite encore. C'est une jubilation fantastique. Il y a aussi, bien sûr, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais enfin, bon, tout de même, je sais que normalement, ça doit coller chaque soir. Et ça, c'est une grande chance. Ça m'aide énormément. Je le ferais même si c'était pas payé, parce que j'en ai vraiment besoin. Les vacances, au bout d'un moment, pour moi, sont quelque chose de désolant. Je m'ennuie à périr au bord de piscines de luxe. Vous savez, quelquefois, je vais vous parler de moments heureux, notamment sur scène. Bon, il y a le bonheur d'être sur scène avec le public, dans ce que ça peut avoir de générique, quoi, le public. Et puis, vous me parliez de ma relation avec les gens que je vois, mais j'en vois quand même certains. Et il y a des choses très, très excitantes, quelquefois. Ça peut être une femme qu'on trouve belle et qui est là, dans la salle. C'est tout à fait platonique. Et, bon, je suis pas une entraîneuse, je suis pas au bouchon, hein, je fais pas la salle après le spectacle. Et en plus, merci bien, je suis servi, ma femme est ravissante et je rentre. Mais c'est agréable d'offrir le spectacle à quelqu'un, vous savez. Elle le sait peut-être pas, mais c'est à elle que je l'offre. J'ai commencé par une femme, parce que je suis, comment on dit, galant. C'est un peu démodé, mais bon. Mais par exemple, il y a quelques soirs, là, il y avait au premier rang un type. Il y a des physiques et puis des façons de s'habiller, etc. J'ai vu, c'était le vieil Anard, vous savez. Il a une bonne barbe, ça. Et il était vieux, mais on sentait qu'il avait toute son enfance encore en lui, toute l'insolence, tout ça. Et qu'il me déléguait toute son impertinence qui était restée intacte et tout ça. Et j'adorais ce type toute la soirée. Il ne sait pas, je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne l'ai jamais revu. Il était là au Théâtre 140, au premier rang, tout ça. Et dans sa façon de rire, d'applaudir, tout ça. Et c'est un type qui avait 65 ans, bien cogné, hein. Mais il avait 12 ans. Je l'adorais.
Vous êtes heureux tous les soirs, comme ça, grâce
Oui, presque tous les soirs. Oui, ça, alors là, je suis jamais déçu. Oui.
C'est pour ça que vous avez besoin de la scène.
Je me console de la vie quotidienne sur scène. Il y a là un climat, si je puis dire. On parlait de météo. C'est le soleil tous les soirs.
Formidable d'entendre
oui.
ça.
Mais ce récit de vos visites chez les médecins, je trouve vraiment, je ne sais pas, ça a peut-être été fait, mais on a l'impression de vivre un de vos sketchs quand vous écrivez ça.
Parce que j'ai la politesse de vouloir faire rire avec des choses graves, effectivement, oui. Toujours et toujours. Vous savez, la fameuse définition de l'humour, c'est la politesse du désespoir. Bon, ben, mais je ne suis pas vraiment désespéré, parce qu'encore une fois, je pense que c'est en gueulant tout le temps, en disant les choses, en informant les autres, etc., qu'on fait bouger les choses. Et je pense que c'est notre rôle, à nous autres, artistes, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est faire bouger des choses dans la tête des gens. Disons, dire des choses qui vous concernent quelquefois, qui vous concernent, je parle de moi, mais qui peuvent concerner tout le monde. Je m'en suis aperçu à propos de ce livre, je m'en aperçois à propos de mon spectacle, c'est-à-dire que ce qui me touche moi, quand je parle de moi, je parle aussi des autres, parce que je m'inscris tout de même dans une humanité moyenne, tout de même. D'autre part, je ne suis pas de ceux qui pensent effectivement que tout est foutu, il n'y a plus qu'à se coucher et attendre la mort. Vous voyez, je veux dire, si je parle de choses graves quelquefois, et en riant et en faisant rire là-dessus, c'est justement pour donner aux gens le goût de les changer, encore une fois, ces choses qui ne vont pas. Sinon, ça serait simplement désespérer les gens. Je ne veux pas désespérer les gens. Souvent, on me parle de mon comique noir, de mon humour noir, etc. Non, c'est, à la limite, j'aimerais mieux qu'on me parle de mon humour vrai, surtout. C'est la vérité, c'est tout. Alors, je parle de la vérité, et on a tendance à préférer, quelquefois, justement, ça dépend qui. Qui est on, d'abord, vous voyez ? C'est comme quand on me dit, alors, qu'est-ce que vous pensez des Belges ? Quels Belges ? Il y a toutes sortes de Belges. J'en rencontre des tas différents. Il y en a même... Il y a des Noirs. Belges. Bon, il y a des gens qui sont tellement... Moi, je ne crois pas du tout à ce clivage régional, géographique, etc. Les gens sont à peu près les mêmes. C'est autrement qu'on peut classer les gens.
Je vais vous parler de la médecine pour vous parler ensuite de l'armée, parce que ça, vous n'aimez pas tellement non plus. Et votre service militaire, ben vous avez été réformé. Ben
j'ai commencé déjà, j'avais pratiquement répondu par avance à certaines de vos questions, puisque j'avais déjà prononcé le mot d'insoumis avant même que vous me parliez de l'armée. Évidemment,
oui, mais c'était
l'armée,
plus
c'est,
que ça.
C'est la caricature
c'était
de
C'était plus
de
que
la société.
Ça. Vous auriez peut-être fait votre service militaire si ce n'avait pas été en période de guerre d'Algérie. Vous ne vouliez pas faire la guerre en Algérie.
Non. Et pas seulement parce que j'avais peur de me faire flinguer, mais parce que, comment dire, ça me paraissait inconcevable. C'est inconcevable d'aller tirer sur des gens dont je comprenais tout à fait la cause.
Des gens avec qui vous aviez vécu.
En plus, oui. Donc, de toute façon, si on ne m'avait pas réformé pour maladie mentale, si j'étais réformé pour maladie mentale, c'est que j'étais dingue pour de bon, d'ailleurs. Parce que l'armée me rendait
très,
dingue.
Très, très bon comédien, quand même.
Ouf. Vous savez, alors là, le paradoxe du comédien, y a l'œil qui pleure et l'autre qui regarde l'effet que ça fait, il y a un moment où on pleure pour de bon, on ne sait plus très bien. Il faut... D'ailleurs, ils ont très très peur, justement, des simulateurs, ça, parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un simulateur, parce qu'il veut être convaincant et il va au bout. Je peux vous dire que si on m'avait pas relâché, j'aurais été très très loin. Très très loin.
Plutôt que de faire la guerre.
Ah oui. Ça alors. Non, ça, je l'aurais pas faite. J'aurais pas faite.
D'ailleurs, je crois que quand vous êtes ressorti, quand on vous a libéré, vous n'étiez pas beau à voir.
Non, pas non, parce que un mois de fort de Vincennes sans bouffer, ça c'est.
C'est un médecin grâce à qui vous êtes devenu comédien, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit à votre famille, ou c'est le conservatoire, ou c'est Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, je suppose que c'était l'hôpital psychiatrique.
Oui. Alors, c'est vrai.
Vous devez beaucoup à la médecine.
Finalement, oui. Mais je dois beaucoup à tout ce qui m'a tourmenté le plus, finalement. Oui, puisque justement, c'est en réaction. Je suis un réactionnaire de gauche.
Mais quand vous avez décidé d'être comédien, bon, vous étiez jeune, vous aviez 18 ans, vous avez allé suivre des cours, et puis vous saviez déjà ce que vous vouliez faire. C'était de la comédie, c'était du cinéma, c'était pas encore des sketchs à l'époque.
Ah non. Non, mais j'avais tout de même le goût de m'exprimer personnellement. C'était beaucoup plus flou que ça. J'ai commencé à 17 ans et demi, alors c'est loin. Hein. Je voulais jouer, je voulais faire rire. Ça, j'en étais sûr. Mais c'est tout ce que je savais. Non. Je n'avais pas de projet précis. Et j'ai été très déçu par l'enseignement du théâtre. Dès le départ, parce que là aussi, il y a tout un caporalisme, toute une hiérarchie. Les professeurs sont souvent, enfin, en tout cas à l'époque, pour moi, étaient justement des pions ou des flics ou bref ou des adjudants, enfin, comme vous voulez, quoi. Enfin, ce genre-là, quoi. C'était souvent des comédiens aigris et qui se vengeaient un peu sur les adolescents que nous étions de leurs propres insuccès. Enfin, un succès artistique, parce que c'est des gens qui étaient dans l'établissement théâtral, qui le sont toujours, qui étaient sociétaires de la Comédie française, qui serraient la main du président de la République, quoi. Enfin, je veux dire, ils avaient la Légion d'honneur, vous voyez. Et j'étais très déçu, parce que moi, je m'attendais à retrouver des saltimbanques, à retrouver des gens différents, quoi, des gens d'ailleurs. Et puis, je me suis retrouvé complètement dans un milieu que je venais de quitter, en pire même, parce que beaucoup plus pontifiant, s'abritant derrière les textes, etc. Car tous ces gens-là dont je parle, ce sont des amoureux de Molière, par exemple. Mais Molière n'aurait pas aimé dîner avec eux, justement. Surtout pas.
Mais c'est grâce à ces cours de théâtre que vous avez rencontré Jean-Paul Belmondo, qui était vraiment...
Oui, parce qu'en même temps, si vous voulez, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur. Et justement, c'est parce que j'ai vu tout ce qui n'allait pas là-dedans que je me suis... j'ai pris le maquis. J'ai passé ma vie à prendre le maquis, finalement, à me sauver. Dans ma vie professionnelle, comme d'ailleurs un peu dans ma vie privée, à un moment, quelquefois, tout en ne rêvant que de paix... vous voyez, et de jardins fleuris, avec des enfants blonds ou bruns, qui chantent autour de moi. Vous voyez, je me plains pas, et si j'ai l'air souvent d'être en colère, etc., c'est pas vraiment pour mon compte, c'est pas... Je suis vraiment quelqu'un d'heureux au sens fort du mot, c'est-à-dire que Je suis bien dans ma vie maintenant. Vraiment, vraiment.
Quand vous dites, j'ai le sentiment permanent d'être un rescapé, vous m'aviez dit ça. Et puis j'ai lu une phrase où vous disiez que votre enfance, votre adolescence, vous avez appris à être une sorte de samouraï. Alors, est-ce que ça va l'un avec l'autre, samouraï, rescapé?
Oui.
Expliquez-vous,
oui.
Guy Bedos.
Oui, voilà. Je passe à la question, là. Non, je pense que je vais m'en sortir avec l'astrologie. Je pense effectivement que je suis un vrai gémeau.
Parce que vous êtes gémeau?
Oui. Et qu'effectivement, il m'est très difficile de me définir d'une façon compacte. Je suis aussi attiré par le noir que par le rose, vous comprenez? Donc... J'ai été sincère dans les deux cas. Quand je dis je suis un rescapé, oui, je suis un rescapé, en effet, je suis un rescapé du couple, par exemple. J'aurais pu être un homme seul, complètement seul, etc. Or, je suis entouré d'enfants, j'ai une femme que j'adore, etc. Bon. Mais c'est une part de moi, ça. C'est une part de moi. Et puis, il y a... pas vous faire le coup du jardin secret, mais il y a d'abord parce que mon jardin n'est pas secret, c'est une espèce de prêt dans lequel tout le monde vient saucissonner mon jardin secret, puisque j'écris des livres.
On a toujours bien un petit coin qui reste secret.
Oui, parce que j'espère. C'est vrai qu'un type qui parle autant que moi sur scène, ou qui écrit et qui est censé se raconter à ce point, fatalement, c'est quelqu'un qui se cache, d'autre part. C'est comme les gangsters qui vont se cacher dans les commissariats, vous savez. moi, je me tais à ma façon, quoi. Je me tais en parlant beaucoup. Il y a peut-être des choses essentielles que je ne dirai jamais.
Qu'est-ce que c'est que ce ricanement? Alors, on sait ce que veut dire escaper, là, mais pas encore. Est-ce que veut dire samouraï?
Samouraï, aussi, c'est le côté solitaire. C'est vrai que quand je suis sur une scène, même si j'ai toutes sortes d'amis qui sont venus m'accompagner, il y a une sorte de combat. Et puis, c'est vrai que, oui, j'ai très souvent été seul. J'alterne, en quelque sorte. Il m'est arrivé d'aimer ça.
Pourquoi vous ricanez?
Parce que je suppose que ça me fait penser à ma femme qui, si elle entendait cette émission, se dirait « Ah bon ?» Oui, j'aime les contraires, vous savez. J'adore jouer les patriarches avec les amis, la famille, la famille descendante. Hein. J'aime pas les vieux. les enfants, etc., autour... moi qui distribue les baisers, les taloges, tout ça, j'adore ça. Je me mettrais presque à découper le gigot, vous voyez, sur le tard. Mais en même temps, me balader les mains dans les poches, dans des quartiers un peu bizarres, la nuit, je déteste pas.
Est-ce que vous avez toujours